remarqué sur cette carte que j'ai faite des commandos, il y en a partout. C'est tous les points comme ça, sont différents. Des commandos, il y en a partout. Les Allemands, depuis 1930, ont été les premiers occupants des camps. Les communistes allemands. Ils sont devenus après des capots, des contremaîtres, des administratifs des camps. Ceux qui avaient survécu, évidemment. C'est comme ça que ça se passait. Alors, permettez-moi de vous dire qu'ils n'étaient pas des tendres. Hein. Alors, on commence par là. Alors, là, on voit quelques malheureuses femmes juives qui vont vers l'air. Là, c'était très simple. Hein. En dessous de 15 ans, chambre à gaz. Au-dessus de 60 ans, chambre à gaz. Père, mère, tout était séparé. C'était comme ça, il n'y avait pas à discuter. De toute manière, le choix a été fait. Bon, là, on arrive au rasage. Je vous en parle un peu. Nous, quand nous arrivons, on a fait 4 jours de voyage en partant du camp de Compiègne. Ces 4 jours ont été horribles, on réclamait de l'eau partout. Jamais personne ne nous a donné même un demi-seau d'eau. Jamais. Ce qui fait que quand on arrivait dans le camp, je vous raconterai comment ça se passe à l'arrivée, on nous a mis sur des bancs comme ça pour nous raser. C'était évidemment la même lame qui servait la tête, le cul, tout c'était comme ça. Bon, mais on a pu aller aux douches froides, et boire autant qu'on voulait. Ce qui était, au bout de 4 jours, je vous assure qu'on a soif. Bon, alors, je suis là, je ne vais pas vous... Ça, ce tas de chaussures, je l'ai vu. Ce n'est pas moi qui l'ai photographié, mais je l'ai vu. Alors, une petite idée, quand on débarque... D'abord, j'étais arrêté à Tulle par la Gestapo française de la rue de l'Oristo. Bonny Lafont. Bonny était surnommé le meilleur flic de France avant la guerre. Et c'était lui qui avait enquêté sur l'affaire Stavisky et Prince. Son rôle avait été, dirais-je, un peu orienté vers l'argent. Je suis très poli en disant ça. Bon. Ce qui fait qu'il a été foutu à la porte. Qu'est-ce qu'il a fait dès que les Allemands sont arrivés? Il est allé offrir ses services. Alors on lui a dit, mais vous tout seul, ça ne va pas, il faut m'en trouver d'autres. Alors il en a trouvé d'autres, quelques autres canailles. Il s'agissait de piller les Juifs, c'était facile ça. Bon. Et puis, ils se sont tous déguisés en SS, et ils ont créé la phalange africaine. La phalange africaine, c'était tous les voyous nord-africains de Marseille, de Toulon et tous ces coins-là, qui étoffaient la trentaine d'hommes de la phalange africaine. C'était... Marcus n'était pas plus mauvais que les autres, pareil. Hein? Alors, je continue, je tourne. L'univers concentrationnaire, voilà un seigneur de la SS qui regarde les gens qui creusent dans l'argile pour faire la briqueterie. D'ailleurs, Hambourg en avait beaucoup de besoin parce que Hambourg a été bien détruite par les bombardements. Et nous avons eu la joie, en sortant de Compiègne et en arrivant à Hambourg, de passer sur l'Elbe, sur un pont, et on voyait la ville où il restait que les cheminées, les encadrements de fenêtres, et les gens avaient brûlé avec des bombes au phosphore, qu'avaient largué les Alliés. Et là, on est arrivé dans le camp. Il faisait nuit, ça s'arrête, on ouvre les portes, les SS gueulent comme ils gueulent toujours. C'est comme ça. Bon, les chiens aboient, parce qu'ils avaient des chiens en quantité, et puis ils nous disent raus, 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 raus. On a tout de suite compris, vous savez, il n'y a pas. Alors on descend des wagons, les fous, car il y en avait chez nous qui étaient devenus fous en cours de route. On était tellement entassés. Bon, eux sortent et puis essayent de partir, comme ça, instinctivement. Les SS les démolissent. On arrive au camp. Et là, on passe dans une cave avec un sol de chaux. Et puis là, on nous dit, par la fenêtre, par le petit vasistas en haut, il y a des voix qui nous disent, si vous avez des bijoux ou de l'argent, donnez-les-nous parce qu'on va vous les enlever. Ça disait déjà quelle était l'atmosphère du camp. peu importe, on va aux douches, je dis qu'on boit goulûment, et puis on se retrouve, on nous rase, ça c'est facile, et puis après, on nous jette, on nous dit vous êtes à poil, et on nous jette des frusques, des dépouilles venant de l'Est. Alors on était déguisés de toutes les façons, on a ri, mais c'était pas possible, tellement c'était marrant de voir ça. Alors, ça n'a pas duré, hein. Le rire, ça n'a pas duré du tout, parce qu'on est allé au camp de transit à Coutry. C'est normal, il faut former un peu les gens quand même. Un peu. L'éducation, c'est quelque chose quand même. Hein? Alors donc, on y est allé très vite, on couchait à 3 par paillasse sur 3 étages. Les paillasses faisaient 90 cm de large. Donc, vous avez beau faire, on tombe. Celui qui tombe, c'est qu'il s'est levé sans autorisation du capot, lequel lui fout une raclée à coup de trique. C'est normal, c'est toujours comme ça. C'est toujours des raclées. Bon, on s'y fait, hein, au bout d'un moment. Alors donc, nous voilà dans ce camp, et puis là, on nous habille avec les vêtements de déportés, c'est-à-dire de la fibrane, grise, gris-bleu et blanc, à rayures blanches, et nous sommes destiné à un commando. On y a passé 8 jours, on a une gamme, et au camp de transit. Alors, je ne peux pas dire grand-chose d'une gamme. J'ai vu l'état de chaussures, j'ai vu l'état de cheveux, je n'ai pas vu autre chose. Si, j'ai vu. Ça doit être quelque part par là. Je ne sais pas si je me trompe ou non. Oui, ça doit être là, tiens. Ici. Ça, j'ai vu. C'est-à-dire, l'orchestre de déportés qui accompagne celui-ci qu'on va pendre. Voilà. Hein? Ça, je suis sûr d'avoir vu, donc je peux en parler. Le reste, ça, je n'ai pas vu. Mais ce sont des photos prises par les SS. Parce qu'ils étaient très bons photographes aussi. Ça, vous verrez tout de suite, ça vaut la peine d'être lu. Quant à la lettre au très vénéré Reichsführer, pour dire qu'on fasse des expérimentations sur les déportés, ça traduit bien l'état d'esprit. Alors, autour des camps, vous aviez une ligne de barbelés, normalement séparée par un couloir de visite entre les deux, et les barbelés étaient électrifiés. Donc, la grosse plaisanterie, fine plaisanterie de la part de nos capots, ça consiste à vous prendre votre Mutzen, le béret, et à le jeter. Va le chercher. Alors, de deux choses, l'une, vous étiez électrocuté ou vous étiez exécuté par la sentinelle. J'en veux un de moins, je n'étais pas assez. Après, ça coûtait que 3 Deutschmark à louer un avenue. Par jour, 3 Deutschmark, tout compris. Ça ne faisait pas grand-chose, t'as vu. Alors, donc, nous voilà. Des morts, il y en a eu. Et puis, on est parti en train sur Brunswick. À Brunswick. On est arrivé à côté d'une immense usine qui s'appelait l'usine, qui était devenue Hermann Göring, et qui, quelques mois après la libération, est devenue Der Stadt, la ville, des KDF-Wagen, des voitures populaires, qui était Wolfsburg, avec le même directeur, celui qui fabriquait les chars, les voitures amphibies et les obus pour l'armée allemande. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Alors donc, nous nous retrouvons dans ces camps et nous partons à Fallersleben, à Brunswick. Là, le camp n'est pas fini, exactement. C'est-à-dire que l'eau n'est pas distribuée, alors il y a des flaques d'eau. On boit l'eau qu'on veut, hein. Moi je suis affecté là, au béton, parce que sans doute, on n'a pas besoin des électriciens tout de suite. J'avais dit que j'étais électricien. Pour ne pas dire que j'étais étudiant, parce que c'était trop dangereux d'être étudiant. Ça ne pardonne pas, ça. Alors, j'avais dit que j'étais électricien. Mais les électriciens n'ont pas besoin de tout de suite, il faut que ce soit construit. Ce qui fait que ça, je n'avais pas prévu. Alors, donc, on nous a employés pour faire creuser les canalisations d'eau et au béton. Alors, au béton, je chargeais la bétonnière à tour de bras, mais j'avais de l'eau. Je descendais avec les wagonnets pour livrer les ouvriers allemands qui construisaient la cité ouvrière hors du camp pour les civils, pas pour nous. Bon, Et donc, peu à peu, je fréquentais comme ça les autres. Et puis, je proposais de les aider à cimenter un peu, à faire un peu. Un lit de briques, mettre le ciment, un lit de briques, mettre le ciment. Bon. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, je suis monté, pas en grade, non, je suis monté sur les échafaudages. C'est fou ce que c'est précieux. Parce que chaque fois qu'il y avait les SS étaient désignés pour partir en Russie, à la guerre de Russie, à l'Est, on avait droit à une flambée de violence absolument extraordinaire. Plus vous étiez haut, moins vous risquiez. À la fin, je me suis retrouvé comme charpentier, vous voyez. Ben oui, là, ils ne viennent pas vous chercher. Ils peuvent vous tuer, mais voilà comment ça s'est passé. Donc, on est arrivé à Wolfsbourg. On a été renforcé avec, je crois, 130 Espagnols, Ukrainiens, Polonais. Et puis, je crois que c'est tout. Oui, on n'avait pas autre chose comme nationalité étrangère. Et on a travaillé. Qu'est-ce qu'on avait à faire ? À finir de construire le camp pour les ouvriers civils. À finir de faire le minimum, l'adduction d'eau et les évacuations pour nous. Et puis, après, on était employé par la ville, l'usine de Hermann Göring, pour aller déblayer des décombres, parce que c'était bombardé presque tous les jours, ce truc. C'était une énorme usine, et puis, alors il fallait déblayer des décombres, et surtout, aller enlever les bombes non éclatées. Parce que comme le bord du Midland Canal, c'est du sable. Les bombes, si elles n'ont pas quelque chose de dur, elles n'éclatent pas. Alors on creusait jusqu'à ce qu'on la trouve, et puis quand ça sautait. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Vous voyez à peu près quel genre de vie on peut avoir. Voilà, alors donc après, nous on a continué à Wolfsbourg, en haut. On rentrait le soir, on avait 6 km pour rejoindre le camp. On traversait le très vieux village de Fallersleben, qui est très beau. Et on se faisait caillasser par la Hitlerjugend. C'est pour vous décrire un peu l'état d'esprit des Allemands. Alors, on rentrait au camp, et au camp, quel était le régime ? On travaillait 13 heures par jour. On se levait à 5 heures, ensuite à 6 heures, il y avait rassemblement sur la place, et à 20 heures, re-rassemblement en fin de travail. Et on avait droit à 2 soupes. La soupe, c'était du rutabaga dans de l'eau chaude, c'est tout. Et c'est déjà pas si mal. Alors, et d'abord, ils servaient tous les déportés, puis quand ça devenait un peu plus épais, ils se servaient eux. Ils savaient que... Bon, c'est normal. C'est un peu normal, hein, on en aurait fait autant peut-être. Alors, donc, mais je n'ai jamais été dans cette position. Bon, alors donc je continue. Les exécutions à Fallersleben, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y avait des morts de... Pas s'ils étaient morts de fatigue. Moi, j'avais pas encore 20 ans, donc je tenais le coup. Mais les vieux qui avaient laissé leur famille en France commençaient à tourner. Ah, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, mes enfants ? Bon, ça, d'ordinaire, 8 jours après, ils n'étaient plus là. Le moral, c'était extraordinaire. Nous, on se contentait du lendemain et puis on vivait. On volait, on vivait, on pillait, on essayait. Qu'est-ce que j'ai mangé comme rutabaga gelé ? Ben oui. On a même mangé du chien le jour de Noël. Parce qu'on avait 6 cigarettes par semaine. Alors on les échangeait contre du pain. Il y en avait qui préféraient avoir la cigarette que le pain. Nous, on préférait avoir le pain que les cigarettes. On pouvait toujours s'entendre. On a acheté un chien et on l'a bouffé à Noël. Ben, il était gros et grand. Alors tant pis pour lui, quoi. Bon, je vous ai raconté un tas d'histoires, mais celles-là sont vraies. J'espère que les autres le sont aussi. Ça, j'ai pas vu. Ça, oui. Lui, je l'ai vu. Quand on a été libéré, qu'on est allé à Veublin, c'est le dernier commando où nous étions. C'était l'époque où, après l'échec de l'offensive dans les Ardennes, cette offensive-là avait été voulue par Hitler. Au mois de décembre, les chars allemands ont traversé les Ardennes comme ils avaient traversé les Ardennes avant de nous foutre une raclée en 40. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et on m'a raconté, quand j'étais chef d'état-major de la première armée, que les Ardennes étaient infranchissables. Alors j'ai pris Schmitt, qui après est devenu chef d'état-major de l'armée, et on est parti ensemble visiter les routes de l'Hunsrück pour voir qu'on pouvait parfaitement circuler dans les Ardennes, d'ailleurs, Richard l'avait fait. Donc, c'est la 82e aéroportée américaine qui a tenu le choc face aux blindés. Et ça a été extrêmement dur, ils ont eu beaucoup de morts. Mais ils ont tenu le coup. Dès qu'il faisait un peu jour, l'aviation venait en appui, mais quand il faisait mauvais, il n'y avait pas d'aviation. Donc, il fallait se battre. Et les Allemands se sont très très bien battus, contrairement à ce qu'on croit. Les Allemands étaient une troupe remarquable, les SS compris. Leurs chars étaient excellents, leurs avions étaient excellents, leur artillerie était très bonne. Alors, on l'a compris, nous d'ailleurs, en 40, on l'a compris. Hein. On en a pris plein. Bon. Alors, donc, je me retrouve à Veblin. Lui était dans l'infirmerie. Cette infirmerie occupait un demi-bâtiment. Et il y avait les médecins étaient des déportés aussi. Il en mourait. Il mourait des gens tous les jours, tous les jours. À côté, dans la moitié du bloc qui prolongeait l'infirmerie, ça s'appelait le Schonung, la convalescence. J'ajoute sick. Vous voyez quel genre de convalescence il pouvait y avoir. Mais la convalescence, ça ressemblait à ça, mais en état beaucoup plus élevé. Hein, ça dure en gros un mètre, quoi. Il était bien, bien soigneusement rangé là-dedans. C'était ça, la convalescence. Mais comme il n'y avait plus assez de place et qu'on n'avait pas assez de force, on ne pouvait pas les tirer jusqu'aux fosses. On n'avait pas cette force. Donc, il y avait aussi des rosiers autour des camps. C'est très allemand, ça, vous voyez. Hein, ils ont leur côté poète aussi. Alors donc, quand vous tirez un gars comme ça, vous le chargez dans le camion, mais après, comment faites-vous? Si vous avez 800 mètres à faire, vous n'avez pas la force. C'est vous qui allez vous effondrer. Hein? Alors donc, voilà notre camp. Et ça, c'est pas chez nous, ça. C'est, peu importe. On a la même gueule. Hein? Tous pareils. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près. Bon, à Veblin, on a été évacués comme ça. Ça, c'est le docteur Defieux, qui était le docteur de notre commando. Il est un peu mieux, un peu plus étoffé que nous, un peu mieux habillé que nous, et c'est normal, car il était en même temps le médecin des SS. Double avantage, parce que de temps en temps, on avait droit à des choses qui étaient réservées aux SS et qui venaient pour nous. Et quand on a dû quitter Fallersleben, parce que les Américains avançaient trop vite, lui, les SS du camp, pas les autres. Bon, et puis les capots, on dit on ne va pas partir. Les Américains sont à 30 km, ils en ont pour une journée de combat, tout cassé pour arriver jusqu'à nous, on ne va pas aller partir à l'est. Alors tout le monde a décidé qu'on ne bougerait pas. Mais en fait, il est arrivé une voiture de la Gestapo avec quatre bons hommes, et dès que ces messieurs ont parlé, on a tous été rassemblés pour aller au train. On était encore de l'ordre de, autant que je me souvienne, de 1500 ou 2000, je ne me rappelle plus exactement, je verrai ça sur le texte. Et il y avait 500 Hongroises, juives hongroises, qui étaient dans les sous-sols de l'usine pour être logées, parce qu'elles fabriquaient des munitions, elles. Donc ça faisait en gros 2000 personnes qui partaient par ce train. Oh, on avait beaucoup maigri. Donc au lieu de 100, on était chargé à 120 par wagon. Mais à 120 par wagon, les plus faibles, ils ne tiennent pas. Ils meurent tout de suite. Et ils s'effondrent et les autres sont dessus. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, je crois que je vous ai parlé un peu du camp de Veblin. Oui, celui-là, c'est un espagnol, effectivement. L'autre, je n'en parlerai pas trop parce que je ne sais pas qui c'est exactement. Lui, je le sais. Je crois même qu'il était dans la presse. Et lui et un autre qui avait été avec. Les Allemands nous avaient rassemblés dans une chambre de jeunes à Fallersleben. C'est un retour en arrière, je fais. Où nous étions avec des jeunes Bretons et des jeunes de mon âge, c'est-à-dire moins de 20 ans. Tous. Ils nous avaient laissés avec nous un type qui a été un véritable saint, c'est l'abbé Germain. L'abbé Germain, il lui arrivait de donner un morceau de son pain à ceux qui avaient été volés dans la nuit, parce qu'on nous volait le pain aussi. Inutile de dire que quand on attrapait un gars qui volait, il n'allait pas loin non plus. Hein. C'est comme ça. Là. Donc l'abbé Germain était mourant, il était dans l'infirmerie, et quand les Américains sont arrivés, on leur a dit qu'il avait besoin d'extrême onction. Et on a eu un aumônier américain qui est venu lui donner dans l'infirmerie l'extrême onction. Au moins, il est mort libre. Lui. Hein? Bon, je continue. Est-ce que vous avez des questions à poser sur tout ce que je vous ai dit? Bon, notre costume, vous l'avez là. Je crois en avoir un encore chez moi. Quand on parle de la fibrane, ça ne couvre rien du tout. Au pied, vous avez des claquettes qui tiennent au pied avec des lacets faits avec des cheveux de femme. Oui, ça ne coûte pas cher. Voilà. Alors, le béret, il faut saluer. Dès que vous voyez un SL, vous saluez, vous arrêtez, vous regardez vos pieds. Vous n'avez pas le droit de regarder un SS en face, c'est interdit. Vous voyez un peu l'esprit dans lequel c'est. Voilà. Je ne crois pas avoir beaucoup à vous dire là-dessus. On a crevé de faim, mais on avait pris la vie. Ça, c'est le Vollkorn, c'est-à-dire un pain noir, où il y avait tout là-dedans. Il devait y avoir autant de sciures que de farine. Et ça remplit quand même. Hein. Alors ça, je n'ai pas vu, c'est pas chez nous, ça. Les cobayes, on n'en a pas eu. Mais ce qu'il y a eu au camp de Neuengamme, c'est qu'il y a la tragédie du Bullerdame. Le Bullerdame, c'était des jeunes enfants déportés de Pologne, d'Ukraine, de Hongrie, qui ont été pris, et les Allemands les ont pendus la veille de la libération, eux, leurs infirmières et médecins. Et oui, je reprendrai la même expression un peu plus tard. Alles tot, keine Zeuge. Tous morts, pas de témoins. C'est plus simple. Bon, je continue. Oui, ça on voit. Les morts et les vivants, puisqu'après on les ramassait plus, les morts. Donc il y en avait partout. Et les gens de la 82e aéroportée sont venus, le général Gavin a demandé « Pourquoi n'êtes-vous que 3 000 ?» Alors on leur a dit « Mais il y a 10 jours, on était 13 000. » Eh bien, on était morts tout simplement de faim. Ce n'est pas les quelques exécutions de cannibales, parce que chez nous, il n'y en avait pas, mais chez les Russes, il y en avait. Chez les Russes et les Ukrainiens, il y en avait. Bon, qui allaient dépouiller ou se servir sur les cadavres. Oui. Bon, nous, c'est... Bon. Et puis après, quand on a été... Ils nous ont vraiment soignés d'une façon... Eux, les parachutistes, nous ont soignés d'une façon extraordinaire. Voilà des gars qui avaient fait la Sicile, l'Italie, la Normandie, la traversée du Rhin, et qui était arrivé, j'en ai eu un que j'ai gardé comme camarade jusqu'il n'y a pas 5 ans. Il parlait à peu près toutes les langues européennes, donc il servait, et il m'a raconté des tas de choses que moi je n'ai pas vues, mais que lui a vues. Et il était le patron d'une très grosse usine de phosphate. De vente de phosphate. Et il s'alimentait dans les dépôts tunisiens, les dépôts marocains, et revendait le phosphate aux Coréens. Parce qu'il ne fallait pas le vendre aux Japonais qui étaient des ennemis, mais les Coréens n'étaient pas des ennemis. Petite finesse. Il ne le livrait pas par cargo, sa famille le livrait par cargo, lui. Et c'est lui qui m'a raconté l'horrible tragédie des Russes. Parce que il était surpris de voir que les Russes étaient loin d'être enthousiastes à l'idée de retourner en Russie. D'abord, ils étaient des traîtres, puisqu'ils n'étaient pas morts au combat. C'était aussi simple que ça. Alors, et il m'a dit, je leur ai fait un discours en disant qu'ils allaient aller dans leur pays, et ils m'ont répondu, toi, tu parles parfaitement notre langue, et tu n'as rien compris au système soviétique. Bon, alors, il m'a dit, j'en ai vu qui se sont suicidés en cassant des carreaux et en se coupant les veines, plutôt que de retourner en Russie. Je crois qu'ils ont eu raison, parce que les Géorgiens qui étaient chez nous en Corrèze ont tous été pendus à l'arrivée en Russie. Staline. Vous savez, les fanatiques, c'est partout pareil. Bon, je continue. Oui, là, vous avez... Ça, c'est les prisonniers allemands à Falaise, de la population locale, qui sort les corps de nos fosses, et pour les enterrer sur l'esplanade de Mecklembourg. Le château de Mecklembourg est là, les fosses ont été là, garnies de croix blanches, et il a fait défiler toute la population de Ludwigslust et de Voblin, et tous les prisonniers de guerre qu'il avait, devant les fosses. Inutile de dire que tous ne regardaient pas. Hein. On peut les comprendre. Alors, ça c'est... Je crois que lui faisait partie des SS, mais j'en suis pas sûr. Donc j'en parlerai pas.
C'est Bergen-Belsen, je crois.
Oui, je crois que c'est Bergen-Belsen, ça. Ça c'est Veblin. Oui. C'est le camp. Ça, c'est Veblin. Je reconnais le château. Il s'était installé au château des ducs, le général Gavin. Et, petite plaisanterie, le 21e corps d'armée blindé allemand, qui retient les Russes, a filé comme un pet de lapin vers les Américains. Mais il y avait l'Elbe d'abord, il fallait franchir l'Elbe, donc il fallait passer sur le pont américain. Donc ils n'y sont pas allés, ils ont attendu. Ils ont envoyé un officier d'état-major avec le drapeau blanc pour venir discuter avec le général Gavin des conditions de reddition, parce qu'eux, ils avaient des chars et tout ce que vous voulez comme armement, et les parachutistes américains, ils avaient des carabines et puis des jeeps. Bon, c'était pas très riche. Hein. Alors là, il s'est passé une chose assez étonnante. Il demande à voir le général Gavin. Le général Gavin, il était comme tous les officiers généraux américains. Il portait 2 étoiles sur son casque. Il n'en portait pas sur les épaulettes. Il n'avait pas sur les épaulettes. Il était en treillis de combat. Il était comme ses hommes. Alors, il présente au général Gavin, qui dit, mais non, je veux voir le général Gavin. Votre réponse, c'est moi. Puis il leur a dit simplement, vous déculassez vos canons, le canon au bleu, avant de franchir nos lignes. Au bleu, ça veut dire vers le ciel. Avant de franchir nos lignes. Vous descendez, vous enlevez vos culasses de canon, vous descendez tout l'armement, et là, vous êtes prisonniers. C'est comme ça que sur cette esplanade, je les ai vus arriver, mais alors, et ils ne demandaient qu'une chose, c'est d'être fait prisonnier par les Américains. Les Russes étaient derrière. Le soir même, un train blindé russe arrivait dans notre zone, parce que c'était la zone qui était destinée aux Russes, d'après les accords, jusqu'à l'Elbe. C'est comme ça que ça s'est passé. Inutile de dire que nous, quand on a été mis de l'autre côté de l'Elbe, c'est-à-dire à l'Est, et qu'on a reçu tous les camps autour de Berlin qui venaient se réfugier chez nous, ils étaient aussi affamés que nous, parce qu'il n'y avait plus rien. Alors on a eu que la surprise de voir un commando de jeunes juifs arriver avec des colis de la Croix-Rouge suédoise. Les pauvres. Leurs colis, ils ne les ont pas eu longtemps. Entre les SS qui leur ont pris tout ce qu'ils voulaient, les voleurs qui leur ont pris le reste, et on leur a dit, vous êtes vivants, vous ne vous plaignez pas trop. Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est la sauvagerie intégrale. C'est la fin. La fin, F.A.M. Hein. Celle-là, c'est une vieille compagne. Bon, je vous ai raconté un tas d'histoires, je ne sais plus très bien si j'ai tout dit.